Africa numéro 1. Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot, portée par Lamine Badiane sur Africa numéro 1.
Et salut à tous, nous voilà fidèles, nous, en ce qui nous concerne, un rendez-vous du football africain sur la radio Africa. Qu'a-t-il pour vous? On l'espère que vous êtes donc sur place et vous nous écoutez. Voilà, ça y est, c'est fini. Une équipe de tout foot presque au complet, car nous attendons notre ordinateur Christian Chango qui a pris quelques jours de repos et qui nous rejoindra dès lundi prochain.
Coucou Christian et coucou à la petite et coucou à la femme. Il est en voiture.
Il est en voiture. Oh, Kiku, attention.
Vous écoute.
Attention à la route. Hein. Mais les autres sont là. Le doyen Willy de Renault, toujours égal à lui-même. Et qui n'est pas content aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas content.
Oui, je suis toujours content, très content. Pourquoi je ne suis pas content?
Ben non, mais tout à l'heure dans la rédaction, vous entendez parler de je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas content des joueurs, des classements,
non,
des listes.
Il y a beaucoup. Le football paraît simple. Donc, comme les règles sont simples, il y a beaucoup qui pensent connaître ce sport. Un grand sport que tout le monde aime. Donc, les gens jugent à tort et à travers. Ça fait mal à ceux qui connaissent ce sport.
Bon, d'accord, on a bien compris. Il y a Hakim Jelouat, bien sûr. Hakim, bonjour, qui vient d'avoir Zinedine Zidane et qu'il confie qu'il est très inquiet.
Alors, on a pris Zinedine Zidane. Coach Lamine, bonjour à toi. Plaisir de te revoir toujours sur ce plateau de tout foot chaque lundi. On n'a pas eu Zinedine Zidane, mais c'est Adama Sorabier qui nous a confié tout à l'heure en conférence de rédaction, en préparation de cette émission tout foot, Lamine. Qu'il est parti du côté
aux entraînements,
Real Madrid, pour justement nous donner des informations précieuses pour la partie de la Liga, et notamment le Real Madrid qui va affronter une belle équipe de Liverpool.
C'est très bien. Ben, on restait branchés à l'antenne. Et au sommaire de cette émission d'ailleurs d'aujourd'hui, on va parler donc des éliminatoires des U20 avec les résultats qu'on va vous donner. Ensuite, nous parlerons de la nuit du football africain qui a planté son décor à Paris cette fois-ci. Il a changé pour cette 6e édition du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il se retrouve à Paris, notre ami Yves Sawadogo. Enfin, nous parlerons des championnats européens avec des rêves. Et nous commençons les championnats par les championnats africains après le jingle.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Alors, mon cher Hakim Jelouat, il y a eu, bien sûr, programmé ce week-end le deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Niger 2019, parce que ça va se jouer au niveau de la phase finale, bien sûr, avec une pétition qui a rendu son verdict, les résultats avec beaucoup de surprises.
On a beaucoup de surprises, coach Lamine Badiane, donc du côté du continent africain et de cette belle Coupe d'Afrique des Nations que l'on va animer l'an prochain, des moins de 20 ans, bien sûr, l'an prochain en 2019. Donc pour ces résultats, c'est les résultats effectivement complets du deuxième tour. Allez, dimanche, c'est joué Tanzanie-Mali. Figurez-vous que le Mali a obtenu une belle victoire à l'extérieur. Quand on se souvient que les Maliens, coach Lamine, chez les moins de 17 ans, avaient été en finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans face au Nigeria. C'est une belle victoire obtenue à l'extérieur pour le Mali 2-1. Ensuite, on a la Gambie qui s'est imposé face aux agoutis, comme tu les surnommes, Lamine, aux agoutis du Bénin.
Ah ben, je rien dit, parce que quand on parle d'agoutis, il n'y a pas Kinde qui nous écoute.
Exact, on lui fait un coucou d'ailleurs.
Bon.
Pour le Bénin, donc effectivement, c'est une défaite du côté de la Gambie. Belle, les Gambiens qui ont remporté leur match. C'est une très très bonne victoire, on en parlera tout à l'heure. Samedi a eu lieu Malawi Angola, très bonne victoire à l'extérieur là aussi pour l'Angola face au Malawi 2-1. Mozambique Afrique du Sud 1 partout. Le Burundi face au Soudan, là aussi c'était un match dur et serré, 1 partout. Botswana Congo 1 partout. On a le Gabon, superbe victoire pour le Gabon. Si Phil le Mouniard nous écoute, le Gabon national chez les moins de 20 ans a remporté son match face à la Côte d'Ivoire 3-0. Et on le rappelle, la Coupe Coach Lamine, c'est le tout simplement, il a été deux fois demi-finaliste. Le Rwanda s'est tout simplement incliné face à Zambie, face au champion en 2007, le Zambien, 2-0. Guinée-Bissau, Nigeria, partout. On le rappelle, le Nigeria, 7 fois champion de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, notamment en 2011 et 2015. Ouganda, Cameroun, là c'est Dipita à qui on fait un coucou, qui va être déçu puisque Ouganda s'est imposé. Le petit score exactement de 1-0. Burkina Faso, Libye 3-1, belle victoire pour le Burkina Faso. Sénégal, Égypte, 0-0, alors que les Égyptiens, 4 fois champions, dont le dernier donc en 2013. Et la Mauritanie, c'est aussi une belle victoire à Lamine Badiane, puisque la Mauritanie s'est imposée face à Guinée 1-0. C'est un match effectivement dont on va parler aussi. Et vendredi a eu lieu Algérie-Ghana, match 2.
Alors, au total, il y a eu 30 buts qui ont été marqués, 5 nuls, 3 victoires à l'extérieur. On a quand même eu des surprises. La Tanzanie contre le Mali, ce n'était pas vraiment réellement une surprise, mais c'est surtout Gambie-Bénin.
Oui, ce qu'on appelle la surprise, c'est juste que le niveau du football africain, au niveau des pays, tout s'équilibre. Donc on a vu, moi je suis très content de voir des scores comme ça. Ça montre que le football africain, tout s'est équilibré. Quand on voit la Guinée-Bissau qui fait un match nul contre
Libya. Sur l'autre. Mais parlons un peu de Gambie-Bénin quand même. Gambie-Bénin, où réellement on a l'impression que quand même quand on regarde la structuration du football béninois est un peu plus important que celui de Gambie au niveau de l'organisation, au niveau de beaucoup de choses.
Oui, mais au niveau tu veux parler parce que la base du football gambien, les jeunes, n'a pas besoin beaucoup de travail pour voir la qualité des jeunes. Parce que la qualité y est. Donc, au niveau des jeunes, il y a une différence entre les jeunes, les A et les U20 en Afrique. Parce que les U20 démontrent la qualité de base. Mm-hmm. Donc, on voit qu'au niveau de la base, les Gambiens sont plus équilibrés que le Bénin.
Mmh, d'accord. Ouais. En quoi, Gambie-Bénin 2-1, ce qui nous met toujours dans le football béninois dans une situation quand même assez, assez difficile. Peut-être que le championnat va reprendre et ça va permettre un peu à cette équipe, ou plutôt au pays béninois, de pouvoir reprendre du poil de la bête. Et espérons dans ce cas-là qu'on aura de toutes les façons, de bonnes nouvelles du côté des aboutis du Bénin.
Oui, mais tu poses la question à M. Akindele.
Akindele qui nous a rejoint, qui est là avec aussi Michel. Coach Lamine, ce qui est intéressant, c'est que chez le Bénin, à Gambie, bien évidemment, on a en fait deux équipes qui ont obtenu une troisième place en 2005 et en 2007 pour la Gambie et en 2005 pour le Bénin. Ce sont des équipes effectivement qui sont intéressantes sur le plan de la compétition. Et là où ça va être intéressant, ça va être la suite pour les matchs à venir. Mais tu vois, c'est effectivement ces deux équipes. Pour l'instant, pas encore de victoire sur cette Coupe d'Afrique des Nations moins de 20 ans. Et comme le disait Willy, c'est effectivement ce que l'on ressent par rapport au championnat aussi, à l'organisation, à la structuration du championnat. Donc deux participations, c'était en 2005 pour le Bénin, une belle troisième place. Ce qui n'est pas négligeable. Et la Gambie, ça faisait aussi un petit moment qu'on les avait vus. Ils avaient obtenu une troisième place aussi en 2007.
Mais cela dit, là actuellement sur cette compétition-là, avec le but marqué à l'extérieur par les Béninois, on pense que quand même le Bénin reste encore vie.
Oui, le Bénin a beaucoup de chance pour le retour qui va se dérouler à la maison, à Cotonou ou à Porto Novo. Donc, ils sont, suivant de la structure, ils sont, comme tu le disais, plus équilibrés que la Gambie. Ils ont les moyens quand même de venir dans le tournoi.
Alors, justement, on a le président Akindele qui revient de Cotonou, qui pourrait nous dire un peu ce qui se passe du côté de la fédération et surtout du côté du football béninois qui, depuis un certain temps, on parle d'un championnat qui est arrêté, on parle d'activités qui ne sont pas encore mises en place. Qu'en est-il au juste ?
Bonsoir Lamine, bonsoir Hakim, bonsoir Uli,
bonsoir
à notre grand technicien et bonsoir aux auditeurs. Coach Lamine, aujourd'hui, c'est vrai, bon, je suis de passage et en temps de play du football béninois, je pouvais quand même intervenir et dire.
Vous ne pouvez pas ne pas dire quelque chose.
Voilà. déjà, au niveau du football béninois, je pense que ce football est malade. Ce football est malade, pas seulement par la faute d'un seul individu, mais c'est, nous sommes responsables. Nous sommes tous responsables parce que, à un moment donné, on a su mettre les à place qu'il faut.
Mais si, on a quand même essayé de mettre.
L'entraîneur
national qui a fait des sorties, qui n'a pu quand même qualifier cette équipe béninoise dans des compétitions africaines.
Il ne faut pas simplement regarder l'équipe nationale. Mais le doyen Willy a parlé tout à l'heure des jeunes. Qu'est-ce qui se fait réellement au niveau des jeunes ?
Rien.
Au niveau du football, rien ne se fait. Aujourd'hui, on parle du football. C'est comme si le football n'existe pas au Bénin. Mm-hmm. Aujourd'hui, simplement, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça. On va avoir une table ronde où les gens vont s'asseoir autour de la table et réellement faire un projet, un vrai projet éducatif de formation pour le football béninois. Mm-hmm. Tout ce que notre jeune frère, le ministre des Sports, est en train de faire, il fait un très bon travail, mais ce n'est pas suffisant.
Il y a un gros travail qui a été fait, voilà. Souleymane, notamment par cette académie Coach Lamine, dont on a parlé il y a peu de temps, et on était effectivement son organisateur.
C'est Mouniérou,
qui organise un tournoi intéressant avec plusieurs académies africaines et qui permet justement à des clubs, des petits clubs, donc
Académies. Donc cette année, Bénin. Par exemple, au niveau des académies internationales, ce tournoi a été remporté par l'équipe du Bénin. Je veux dire qu'ils ont joué la finale. Oui. Donc ça veut dire que le potentiel, il existe.
Il est là.
Oui, mais qui aujourd'hui, qui est l'entraîneur de l'équipe A aujourd'hui? Qui a été nommé?
Pour l'instant, c'est toujours Omar Tchoumogo, à ma connaissance. C'est tout Omar Tchoumogo. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont le conserver? Parce qu'aujourd'hui, c'est bientôt l'élection au niveau de la Fédération béninoise de football.
Ouais, mais mon ami,
j'entends dire que certaines personnes veulent être candidats, notamment le fils de l'ancien président Dieudonné Soglo, c'est-à-dire M. Galiou Soglo.
Ouais.
Des bruits de couloir, hein, c'est encore officiel et tout ça. Mais bon, on n'a pas besoin vraiment de ça. C'est de reprendre tout à zéro. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mal quand je le dis, le football béninois marche sur la tête.
Bon, alors on a bien compris, le football béninois marche sur la tête. Mais cela dit, encore une fois, par rapport au résultat des U20 que nous avons eu ce week-end, face à la Gambie l'a remporté par 2-1. Mais comme vous le savez, le match retour se jouera à Cotonou, le grand stade. Comment ça s'appelle ce stade-là?
Le stade de Mathieu Kérékou, qui était anciennement appelé le stade de l'amitié.
Voilà, qui est désespérément vide face à la tribune découverte. Un autre match quand même qui a retenu notre attention, c'est le match entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Alors, le Gabon a étrié la Côte d'Ivoire par 3-0. Doyen Willy, décidément, c'est une revanche pour les Gabonais par rapport à l'équipe senior.
Oui, non, la Côte d'Ivoire a un problème actuellement, comme le problème dont parlait tout de suite au niveau du Bénin. La Côte d'Ivoire a les mêmes problèmes parce qu'on a reçu sur le plateau des dirigeants ivoiriens qui sont venus parler et que le championnat risque d'être arrêté aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc à chaque fois qu'il y a ces problèmes-là, ça agit sur le sport du pays. Parce qu'on prend toujours le sport en otage par rapport à des petits problèmes. Il faut organiser le sport, c'est-à-dire se mettre au service du sport. Les gens se servent du sport chez nous parce que le football génère beaucoup d'argent. Il y a plein qui se servent de ce sport, mais ils ne servent pas ce sport. C'est-à-dire que quand on parle des U20 par exemple, ça c'est le niveau des gens de quartier. Parce qu'on a la chance en Afrique d'avoir un niveau élevé au niveau de football. Donc on prend n'importe qui, il peut jouer au niveau de U20. Mais quand ce n'est pas organisé, on le voit sur le plan international après. On le voit que ça ne passe pas. On ne va pas amener des gens dans la rue pour aller jouer le mondial, par exemple. Donc, il faut organiser les championnats.
Il a raison, Coach Lamine. Le constat, il est simple. Il est là. Chez les moins de 20 ans, il n'y a aucune victoire en Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ça devient effectivement de plus en plus compliqué. On a sur les statistiques, une troisième place, c'était en 1997. Ça remonte quand même à très longtemps. Et deux fois demi-finaliste en 80-89. Ce qui montre effectivement clairement que le football chez les jeunes du Côte d'Ivoire, il y a aussi un mal-être et des complications au niveau des infrastructures, de la formation sportive qui n'avance pas. Et là, on aimerait bien effectivement du changement de ce côté-là parce qu'on a du football, on a du bon football et on a des jeunes qui ont soif de victoire. Mais le problème, c'est que en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, on les a écoutés il n'y a pas si longtemps, les représentants de la première division avec certains, notamment clubs qui étaient présents, notamment l'entraîneur de l'ASEC qui était venu, Coach Lamine, en précisant aussi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes par rapport à la formation de la jeunesse, par rapport au bien du football ivoirien. Il y a encore des choses à revoir et des choses à rectifier.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Côte d'Ivoire était absente lors de l'édition précédente et risque de rater celle-ci du Niger 2019. Quant aux Gabonais, mais c'est une très très victoire parce que ils ont pris les deux très vite,
oui. Et,
tandis que la Côte d'Ivoire ratait un penalty, donc on se retrouve dans une situation dans des cas comme ça avec un match retour qui sera vraiment, vraiment difficile pour les Ivoiriens.
Je vois que le Gabon aujourd'hui est devenu la bête noire, que ça soit au niveau des
Je sais pourquoi, parce qu'au Gabon il y a un championnat plus ou moins valable au Gabon. Ils ont un championnat. On voit les Mounana, on voit sur le plan continental. FC Mounana, par exemple. Donc, comme
Mais les Ivoiriens aussi ont un championnat.
Oui, mais ils ont un championnat. Ouais. Où sont les grands clubs? On voit que ASEC, où sont Casport et compagnie. Je vous ai dit que c'est un dangereux de ne plus voir les anciens clubs. Quand on crée un club, moi je vais allumer par exemple GF Sou, je vais créer Willy FC, ça n'ira pas loin.
Mais ça c'est clair.
Ça n'ira pas loin. Parce que
c'est clair.
Ouais, il faut les anciens clubs qui développent
les. Qui ont une histoire.
Ouais, qui ont une histoire.
Autre match, messieurs, Guinée-Bissau face au Nigeria. Alors, ça aussi, c'est une grosse surprise, puisque Guinée-Bissau, bon, même si on sait que le plan senior, ils ont prouvé quand même certaines choses au niveau d'une Coupe d'Afrique des Nations,
oui.
Mais au niveau des U20, ça veut dire que ça travaille du côté de Guinée-Bissau, oui. Puisque les Nigériens, pourtant, menaient 2-0 à la mi-temps, mais grâce à Alalade, égalisation au retour des vestiaires, 53e et 64e. Donc, tout devrait se jouer au match retour doyen.
Oui, ce n'est pas un hasard, parce que les seniors à la CAN l'autre fois. Donc, moi, ça me fait plaisir de revoir les pays ou des petits pays, entre guillemets, qu'on pensait, qui sont devant la scène. Comme on voit beaucoup de petits pays, entre guillemets, qui sont devant la scène actuellement en Afrique. Moi, ça me fait plaisir parce qu'ils travaillent.
Hakim, hein.
Oui, ça travaille. Ce résultat est intéressant, coach Lamine. Parce que la Guinée fait un match nul, bon, certes à domicile, personnellement, c'est un bon résultat. Pourquoi ? Parce qu'ils affrontaient, coach Lamine, la meilleure équipe.
Ouais. Enfin, ouais.
Le Nigeria, c'est 7 titres de champion d'Afrique. C'est un peu comme les Égyptiens et les Seniors. Ça reste les meilleurs. Donc, faut le rappeler. Ils ont fait aussi 3 places de 3. Donc en 95, 2009, 2013, 3 fois 3e et 2 fois demi-finaliste en 79 et 80, même si ça remonte à longtemps. La Guinée-Bissau, son football, eh bien, il est intéressant, il va de l'avant. Et on le voit notamment aussi au niveau des coupes de clubs, que ce soit sur la Coupe de la Confédération africaine ou la Ligue des champions africaine. Chaque année, on a de plus en plus de petits clubs donc de Guinée qui pointent leur bout du nez et qui font d'excellents résultats. Et là, moi, je trouve que c'est un très bon résultat. Et la Guinée-Bissau a envie de rejoindre effectivement le Niger pour pouvoir participer à cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans.
Ben, il faudra déjà voir le match retour, puisque ça se jouera au match retour. On est là donc de tout. Et je ne suis pas sûr que réellement nos amis de Guinée-Bissau puissent se qualifier du Nigeria. Mauritanie-Guinée. Alors ça, c'est pour moi, c'est une des surprises des éliminatoires U20. Puisque après le Maroc, c'est toute la Guinée de subir foudre de guerre donc des Mourabitoun. Sidi Hamed Camara a été celui du match, 27e. Que du côté guinéen, on a raté beaucoup d'occasions.
Oui, les Mourabitoun, ça fait longtemps, ça fait à peine 5 ans qu'ils sont en train de revenir sur la scène continentale. Et il y a du travail là-bas. Parce qu'on a eu un Mauritien sur le plateau qui nous expliquait ce qu'ils font, sont en train de faire.
C'est la deuxième équipe sénégalaise. Coach Lamine doit vous dire ça.
Exactement. Donc, ils prennent le Sénégalais de l'autre côté de Saint-Louis.
Pas Sénégalais, c'est pas ce qu'il avait dit.
Ils récupèrent donc les joueurs sénégalais qui ne jouent pas dans le championnat et qu'ils vont nationaliser. Et voilà.
Ouais, toi, tu penses qu'un fleuve peut faire une frontière entre deux pays.
Sidi Ahmed Camara, soit il est guinéen, soit il ne peut pas s'appeler Mohamed de Boun Khattab. C'est pas possible.
Mais c'est pas qui joue. Dans les Mourabitoun, il y a beaucoup de noirs qui jouent comme dans beaucoup de pays comme
au Soudan. L'Ardar Benoumi, c'était pas un Marocain, messieurs. Arrêtez de conneries là.
Ouais, mais
lui, il faut qu'il place un Algérien dans le last. Mais parce qu'on les voit pas dedans, quoi. Il faut qu'il regarde les cadets ou les Benjamins.
Ils ont fait un 0-0 contre le Ghana.
C'est clair.
C'est un bon score, hein.
Alors, il faudrait qu'on fasse une émission sur le football mauritanien qui est en train de monter. Et grâce à un entraîneur, quand même, c'est Corentin Mats,
oui,
qui est là-bas depuis quelques années et qui est en train de monter un projet très intéressant.
D'autant
plus que la FIFA aussi. La FIFA aussi est souvent en Mauritanie.
J'ai tout fait pour aller voir. J'ai eu des Mauritaniens au niveau du sport. Et donc, j'ai pris des numéros qu'on va approcher. Parce que c'est important. Il faut savoir ce qui se passe là-bas pour en parler. Comme ça, d'autres pays aussi peuvent vous suivre. Parce qu'on est écouté partout pour savoir ce qui se passe en Mauritanie pour que d'autres le fassent aussi.
Ouais. Bien sûr. Égypte, messieurs, en première mi-temps, les Sénégalais ont réagi en deuxième mi-temps, mais ils ont manqué d'efficacité, ce qui fait qu'il y a eu 0-0. Le match retour, ça va être complètement difficile, doyen.
Oui, ça va être difficile, mais le fait 0-0 contre l'Égypte, c'est C'est la foudre de guerre au niveau de l'Afrique. Donc, même à la maison, on fait le 0-0 contre l'Égypte. Donc, c'est un bon score. Donc, tout est ouvert après au Caire ou à Alexandrie. Je ne sais pas où.
Alors, c'est vrai qu'il faudra marquer un seul but.
Oui.
Mais si vous n'avez pas marqué un but à Léopold Sédar Senghor, ce n'est pas du côté du Caire que vous allez en marquer. Ça va être complètement
difficile. On peut marquer partout, comme tu le sais.
Ouais, c'est ce qui va être difficile, coach Lamy, tu as raison de le dire. C'est le déplacement du côté du Caire. Même les moins de 20 ans, le public sera présent du côté des petits pharaons, des petits. Moi, je trouve que c'est un bon score pour le Sénégal.
Oui.
Prêt à eux de jouer leur va-tout à l'extérieur du côté de l'Égypte, même si il y aura le 12e homme égyptien qui sera présent pour guider et encourager les pharaons.
Tanzanie-Mali, pour terminer, sur les matchs que nous avons choisis sur le championnat d'Afrique des U20, ces éliminatoires de Niger 2019, il s'agit de la Tanzanie et du Mali.
Oui, quand on le score des Maliens au niveau des A ou des U20, on voit que les Maliens ont toujours une base, un grand pays de football, je vais toujours le répéter. Mais ce que fait les dirigeants maliens pour Mali, c'est ça qui me fait mal. Quand je vois le score des jeunes et maliens au niveau des clubs, et même au niveau des U20 actuellement, tout ça me fait du mal. Pourquoi ? Parce que la qualité est là. Donc, moi, j'ai le convaincu que ce sont les dirigeants qui sont en train de mettre en danger le football malien.
En tout cas, ils ont été performants, les Maliens. Il l'a encore prouvé en allant s'imposer en Tanzanie 2-1.
Oui, le football malien, on le connaît bien, Lamine. On avait vu cette génération-là, justement, cartonner du côté de la Coupe du Monde des moins de 17 ans il y a 2 ans. Ils avaient fait une belle finale face au Nigeria lors du Mondial des moins de 17 ans. Et c'est cette génération-là qui arrive petit à petit chez les moins de 17, qui passe justement chez les moins de 20 ans et qui progresse dans le bon sens du terme, même si pour le moment on a un championnat totalement à l'arrêt, pas tout à fait, puisqu'on a la Ligue de Bamako qui continue à jouer avec la plupart des clubs qui sont en première division, mais on a effectivement un bon foot du côté des jeunes. Les Aiglonais ont fait un bon résultat face à la Tanzanie. La Tanzanie, c'est une bonne équipe de football, surtout chez les moins de 20 ans, et c'est un bon, je pense, pour le match retour pour les Maliens.
On va juste prendre Salim du côté du Standard et revenir et donner les résultats avant d'attaquer la nuit du football africain comme deuxième phase. Salim, vous êtes avec nous.
Oui, coach Lamine, salut.
Salut Salim.
Oui, je vous ai bien suivi attentivement sur les résultats du second tour aller de l'éliminatoire pour la CAN U20. Vous parliez de la Tanzanie, du Mali, de la victoire du Mali en Tanzanie. C'est un super résultat. De toute façon, les Maliens, comme disait tout à l'heure Hakim, ils sont dans la continuité par rapport à leur sacre en CAN U17 il y a quelques années. Donc ce sont les mêmes là. Et ce qui est chez les Maliens, c'est qu'on retrouve beaucoup de joueurs en A après. Par exemple, moi je prends Djigui Diarra, le gardien de la sélection actuelle, qui est un jeune et qui est formé au stade malien et qui est toujours en équipe nationale au niveau des A. Le résultat en Tanzanie, c'est pas facile, Dar es Salaam, parce qu'on sait les Tanzaniens, c'est tous les jeunes de Young Africa et de Simba, deux grands clubs de Tunis qui fournissent tous ces joueurs-là au niveau de la sélection, donc c'est pas mal. Donc bon résultat du Mali en Tanzanie. Et sinon, j'ai mis une petite parenthèse sur la liste de Gernot Rohr pour le Nigeria, pour la Coupe du Monde 2018. Coach Lamy, j'ai le temps de dire...
Bien sûr, Salim. Vas-y.
Ouais, alors concernant Gernot Rohr, donc il a sélectionné, il a dévoilé donc la liste, il a sélectionné 30 joueurs. Donc on retrouve Obi Mikel, Victor Moses, Iwobi, Anacho, Ndidi, Igalo ou encore Ahmed Moussa.
Ahmed Moussa, un cadre.
Voilà. Et belle surprise, franchement, je suis vraiment content que Gernot Rohr ait pris Junior Lokosa, qui est quand même le meilleur buteur de Canopy Arts. Le Canopy Arts, c'est un grand club au Nigeria, c'est le club du nord du Nigeria qui a sorti énormément de joueurs, comme Ahmed Moussa par exemple. Et voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait plaisir de voir le meilleur buteur du championnat local dans la liste des 30. J'espère qu'il sera des 23, mais ça me rappelle le grand Nigeria, ça me rappelle la base du football nigérien, hein, les Rachid Hakimi, tout ça, ils ont été formés sur le continent, ils ont brillé au Nigeria. Quand je vois moi par exemple, quand je vois Junior Lokosa, j'espère vraiment que cette équipe du Nigeria... ça sera la même que 94 et qui feront mieux que 94.
Salim, tu te rappelles, on avait reçu Gertrohr sur le plateau avec Willy, avec toute l'équipe. Tu étais avec nous également. Et il nous avait confié, je me rappelle, je lui avais posé une question justement par rapport au recrutement et à la sélection, avant même qu'il la dévoile cette semaine. Il disait justement qu'il avait un œil attentif sur le football local. Ouais. Effectivement, s'intéresser à des clubs comme le Canopilars où il y a des belles pépites, c'est une bonne chose de la part de Garnotror parce qu'il connaît très bien le football africain. Il le sent, il le vit, il nous l'avait dit, et il le porte haut. Et je pense que ça va être vraiment intéressant pour ce jeune qui a effectivement inscrit 18 ou 19 buts en 21 rencontres, Lamine.
Bon, en tout cas, attendons déjà la liste définitive, oui. Parce que souvent on se dit, voilà, la situation de ramener des petits jeunes, leur donner de l'expérience, mais arriver sur la Coupe du Monde où on les met remplaçants, puis ils n'ont aucune chance par rapport à des joueurs qui sont vachement établis. C'est ça aussi le problème au niveau de nos sélectionneurs.
En tout cas, on fait ça parce que lui, il est sur place. Et donc, il voit ce qui se passe.
Tout feu, tout, l'émission 100% foot sur Africa numéro 1.
Sur la radio africaine, messieurs, nous sommes sur le 105 avec le doyen Uder Kono, avec bien sûr Akin Loat, et nous faisons un gros coucou bien sûr à Christian Chango qui n'est pas nous, 0155 038 00 depuis la France, ou 0033 155 07 58 00 depuis partout dans le monde. Vous nous écoutez bien sûr sur le 107.5 et sur le 92.3 à Melon, Mantes-la-Jolie, 87.6. Messieurs, nous allons parler de la nuit du football africain. Qui connaît la nuit du football africain, doyen?
Oui, j'entends parler. Donc, il devait faire une en Guinée qui n'a pas eu lieu. C'est l'avant-dernière. Donc, je sais que M. Akindele est plus au courant de ça que moi.
Oui, ouais, non, mais on viendra sur Akindele. Mais Akindele n'est pas l'organisateur du tournoi de la nuit du football africain. Il est là pour nous donner des informations. Il faut que ça soit clair. L'organisateur s'appelle Yves Sawadogo, qu'on essaie de joindre, qu'on aurait voulu avoir ici sur le plateau. Malheureusement, comme il est très très pris par rapport à la nuit du football africain, espérons qu'on pourra l'avoir après. Et nous avons envoyé une stagiaire, Tess Volé, pour aller lui poser quelques questions par rapport à cet événement, Hakim.
Oui, je trouve que c'est une bonne chose, cette nuit du football africain. Qui se tient, rappelle, hein, c'était la première fois depuis la création de cette nuit du football africain qui se fait donc en France. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a, voilà, une grande communauté.
Il faut rappeler que c'est la sixième édition.
C'est une première en France et c'est une bonne chose pour la diaspora, parce que ils sont au contact tout simplement de grands champions africains qui viennent effectivement participer à ce beau programme où il y a des conférences, il y a un match de gala, il y a des récompenses aussi qui sont données. Je trouve que c'est une belle promotion pour le football africain, mais pour l'Afrique tout entière.
Alors, on va très certainement retrouver là-bas des grandes personnalités, dont Pape Diouf. Georges Weah, je pense qu'il n'aura pas le temps d'être là. Le président de la République, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Cyril Demoureau, bien sûr. Rabah Madjer, Kalusha Boulalia, Bernard Lama, Joseph-Antoine Bell. Ces personnalités qui sont des membres d'honneur de la nuit du football africain, Total devrait être là. Donc, on va pouvoir parler un peu avec Souleymane Akindele, qui connaît un peu parce qu'il a assisté pour la plupart aux différentes nuits du football africain. Alors, mais bien entendu, on va d'abord écouter le sonore de notre stagiaire Tess qui est allé voir Yves Sawadogo pour lui poser une seule question. Pourquoi Paris ?
Notre organisation a décidé de faire un clin d'œil au football français. On a estimé au bout de cette sixième édition qu'il était important d'ouvrir justement cette organisation justement au monde. Et je crois que la capitale stratégiquement qui pouvait bien évidemment bénéficier de l'accueil de la NFA 6 Total, c'est Paris. Quand on sait un peu l'histoire du championnat français avec toutes ces gens du football africain qui sont passés par le championnat de France. Donc aujourd'hui, c'est une logique. Paris est une logique de cet événement. À Paris, on aura la possibilité de mobiliser une forte communauté africaine. Quand on sait aussi la passion que cette communauté a pour le football. Je pense que Paris est effectivement l'endroit idéal pour donner un engouement à cet événement.
Alors, c'était ce matin, hein, c'est tout frais, c'était ce matin. Ouais. C'est vrai que, bon, à la conférence de presse, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de situations, des journalistes ont posé beaucoup de questions. Alors, Hakim, président Akindele, donc c'est une sixième édition à Paris. Jusqu'où ira notre ami Yves Sawadogo ?
Ben, vous l'avez écouté, comme il a dit, il a voulu faire un clin d'œil à la France, au football français. Moi, je vais ajouter la diaspora africaine qui vit là, en Europe. Et cette sixième édition, il y aura un changement dans cette... Bon, pas un grand changement. Hein. Il y aura le programme, un match de gala le dimanche à 15h. D'accord. Et ce match gala va réunir tous nos légendes africaines au stade de Sannois-Saint-Gratien. Et avant le match de gala, il y aurait une conférence débat sur l'enfance africaine.
Le football vecteur de développement voilà. Et d'éducation.
C'est après cette conférence où il y aura le match de gala. Et après le match de gala, il y aura cette grande soirée qui va se tenir, l'Iné Gala qui va se tenir à l'hôtel Hyatt à Porte-Maillot, au Palais des Congrès.
Alors qu'est-ce qui va changer, vous qui avez assisté à la dernière nuit côté du Burkina Faso?
Non, ce qui change, c'est que la nuit du football s'est déplacée. La nuit du football a quitté l'Afrique, est en Europe. Comme j'ai dit, pour faire un clin d'œil à cette diaspora et montrer aussi au monde entier ce que c'est que nos légendes qui ont quand même évolué dans les championnats européens un peu. Et ce sont ces légendes-là, pour la plupart, qui seront présents à cette nuit du football.
Oui, mais je comprends bien, mais ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce qu'on est obligé de se déplacer sur Paris pour faire connaître nos légendes? Les légendes, ceux qui ont envie de les voir, ce sont surtout les gens de l'Afrique qui ont envie de revoir des Didier Drogba, etc.
Qui ont envie de voir des Didier Drogba, mais avant les Didier Drogba, on avait des joueurs. Et nos jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire de ces joueurs. Ouais. Nos jeunes africains qui sont nés en France, qui sont nés un partout en Italie et tout, ne connaissent pas l'histoire de ces légendes-là. Donc il est important de faire connaître l'histoire de nos légendes à ces jeunes qui arrivent, ces jeunes de 18 ans qui arrivent. Et y a, voilà, donc raison pour cette nuit de football s'est déplacée à Paris, en Europe.
Alors, on attend qui par rapport à ces légendes-là? Est-ce que vous avez déjà des noms qui peuvent nous permettre de dire que voilà, ça c'est une...
Alors, nous attendons quand même des joueurs comme Didier Okocha, des Kadosha Boalia,
champion olympique,
des Mustapha Hadji, des Rabah Madjer, des Belloumi. Ce sont des légendes. Et à côté de ces légendes, on aura aussi des jeunes joueurs qui sont en train de monter, des joueurs aussi qui sont en fin de carrière, tels que Didier Drogba, Samuel Eto'o et Adebayo. Donc il y aura du beau monde.
Mais quelle serait la différence entre cette nuit du football africain et les awards de la Coupe de la Confédération africaine de football, qui est la CAF?
Non,
est-ce que vous voulez concurrence à CAF?
Pas du tout. Quand vous regardez les récompenses, c'est une reconnaissance à nos légendes. Parce qu'on a remarqué que on n'a pas assez remercié des légendes comme Laurent Pokou, qui ont quand même fait pour le football, des légendes comme Rabah Madjer, qui ont fait quand même beaucoup pour le football. Ils n'ont pas été assez récompensés. Donc, cette nuit de football vient récompenser ces légendes-là et dire à nos jeunes qui arrivent, voilà, à vous, il y a une histoire dans le football. À nos jeunes qui sont nés ici, voilà, l'Afrique avait une histoire dans le football et voilà ce que fait le football que vous n'avez
pas. Alors, c'est différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Ce est très important parce que africaine, par des jeunes. 0155 depuis la France, messieurs, vous écoutez sur le 107.5. Nous avons réussi alors d'une manière exceptionnelle à avoir quand même le coach de l'équipe du Bénin qui a joué Doyen Willy.
Donc, Maguire, une équipe algérienne qui a battu l'Allemagne.
Contre la Gambie, on l'a rappelé le résultat. Donc, 2-1.
Parce que l'Allemagne des années 80, c'était autre chose.
Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, dans notre France, le Bénin reste toujours à 10 minutes de la fin,
ils ont perdu le match. Donc, c'est important que les enfants voient ces légendes-là pour sachent que le football est... africain a existé avant les Eto'o.
Oui,
en tout cas, merci coach, merci d'être venu sur la radio africaine. Nous voulions avoir un peu votre sentiment concernant lui, donc, bon, ce match entre la Gambie sur les éliminatoires du U20, entre la Gambie et le Bénin. Comment vous expliquez un peu, pouvez-vous expliquer un peu ça, coach, et nous donner votre sentiment
africain? C'est ça, Abdal et Canal Plus, c'est bien.
Canal Plus Afrique.
Canal Afrique,
Canal Plus.
On verra pas les images. Bon, vous nous direz quoi, le gardien en question, alors.
C'est un partenaire de prestige.
D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, on est avec vous. Donnez-nous le gardien, alors, s'il vous plaît.
Et pour justement ceux qui souhaitent réserver leur place à ce dîner.
Ok, merci. Vous êtes Chitou Rachad.
Qu'il ne faudrait pas oublier, oui, c'est le 07 55 35 72.
Ça va, pas trop déçu de ces effets. Vous êtes bien rentré de la Gambie.
55 35 72 94.
Alors, racontez-nous un peu. Est-ce que ce match il s'est bien passé, que même si la victoire n'a pas été au bout, vous avez perdu 2-1, mais je veux dire que avec le match retour qui devait jouer dans une quinzaine de jours, il y a des chances pour l'équipe du Bénin de passer.
Ouais, de toute façon, justement, après un match, tu dois avoir toujours des choses à corriger dans le plan effectif. Et dans l'équipe là pour affronter le match retour. Donc, ouais, c'est vrai, on a été battu pour 2-1, mais nous n'avons pas de mérité. Donc, c'est ça.
Mais qu'est-ce qui n'a pas marché réellement?
Vous savez, nous avons une équipe de jeunes et la plupart de ces jeunes ne sont jamais sortis. Jouer un grand match de la paix à l'intérieur. Ils ont même la chance de sortir pour aller au Congo jouer au moins deux matchs amicaux. Et puis bon, ça les a aidés un peu. Donc, tout de suite dans le jeu, ils ont été pris par l'adversaire. C'est pas que l'adversaire est supérieur en eux, mais vous savez, ça joue toujours sur quelqu'un qui n'a jamais sorti de chez lui et que c'est la première qu'il trouve implique. Bon, donc ça a un peu joué sur l'équipe et c'est ça. C'est le début du match, mais après, ils se sont mis dans le match et puis ça va.
Qu'est-ce qu'il y aura à corriger alors pour le retour?
Ouais, on va corriger surtout leur mental. Et puis, bon, il y a des trucs, des petites choses à corriger. Mais bon, donc, on va voir. On va prendre les entraînements dès demain. Et là, on va corriger un peu des choses, surtout dans l'attaque. Et c'est ça.
Oui, coach, c'est Souleymane Akindele. Moi, je voudrais savoir, alors, ces joueurs que vous avez sélectionnés, est-ce que l'Ossatu participe au championnat béninois ou vous avez aussi des joueurs qui évoluent à l'extérieur?
Nous avons quelques joueurs qui évoluent à l'extérieur.
Vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de championnat au Bénin?
Oui, tout à fait, il n'y a pas de championnat au Bénin. Mais bon, nous avons des centres de formation et quelques joueurs que nous connaissons dans le championnat passé. Et donc, c'est ça.
Donc, la tâche doit être dure pour vous, hein?
Très dur parce que d'abord j'avais eu au moins 150 joueurs, je suis obligé de faire le tri et dans les 150 j'ai réduit le nombre à 30 quelques et maintenant je suis à 25. Bon, ça n'a pas été facile, je ne croyais pas le championnat en place. Bon.
Bonjour coach, c'est Widor que nous. Et j'ai une question à poser. Vous ne pensez pas que c'est le manque de compétition qui fait qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le...
Oui, il y a ça qui est beaucoup aussi. Et après ça, il y a, bon, vous savez,
ouais,
la jeunesse aussi compte beaucoup. Bon, vous savez, quand vous sortez comme ça, si tu as des joueurs localement qui sont en place, qui sont sortis, qui sont dans le pays, ça joue, hein, parce que faites pas ça à savoir ce que j'ai dit.
Oui, je sais, je comprends ce que vous dites.
C'est ça.
Bon, alors, quel sera l'objectif en fin de compte, coach? D'abord, battre, ça c'est le premier objectif, c'est de battre, parce que vous commencez les entraînements demain. C'est d'éliminer la Gambie, et puis jusqu'où vous vous donnez la possibilité d'aller avec les juniors?
Quand tu rentres dans une compétition, il faut toujours viser haut. on va pas rentrer dans une cuisine pour dire, je m'attendais à sortir tout de suite. On met bien un fond de place et on s'organise bien. Et je crois que l'équipe de Zambie, nous pouvons passer cette étape et maintenant. C'est pas un match, on va voir ce qui se passe après. Ce qui est sur notre objectif, c'est de casser le pays pour
la phase finale.
La phase finale, c'est ça.
Au Niger.
Au Niger, oui.
Voilà. Coach, merci beaucoup d'être venu rapidement comme ça au niveau de la radio africaine. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne route concernant ces jeunes. Continuer les entraînements pour pouvoir passer le cap de la Gambie.
On sait que c'est pas facile, mais tenez bon parce que remarque qu'il n'y a pas de championnat aujourd'hui au Bénin et vous travaillez avec les moyens qu'on vous a mis à disposition. Mais bon, c'est facile, mais tenez bon et puis faites-le au football béninois pour pouvoir qualifier le Bénin à cette compétition.
D'autant plus que vous avez de grands supporters ici. Hein, le président Akiné qui vous parle, il est supporter du Bénin.
Ok, merci beaucoup.
Et bonne chance.
Bonne chance, merci beaucoup.
Merci, ok.
Et donc, voilà, donc, c'était l'éducation du coach. Donc,
oui, donc ce qui est triste dans ce contexte, c'est que la plupart des pays au niveau des U20, on n'a que compétition junior, donc il n'y a pas de championnat junior. Ça fait que, comme on voit le niveau du Mali, le Mali a lié, et souvent les centres de formation maliens ont des équipes au niveau de la première division, donc les joueurs sont intégrés dans les clubs. Oui. On voit les Nigériens, les Ghanéens par exemple, leurs jeunes sont dans des clubs comme Hassafok, Santi Kotoko et compagnie. Mmh. Or, il y a d'autres joueurs sont dans les centres de formation qu'on ramasse pour aller jouer à une compétition.
Oui, mais
c'est très compliqué.
Oui, coach, je suis d'accord. Mais quand il nous dit que les enfants n'ont jamais été la première fois qu'ils voyageaient, je veux dire que c'est un manque d'organisation notoire du côté de la fédération. Je veux dire que quand vous préparez au moins des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, si vous avez ne serait-ce que des ambitions pour être dans la phase de groupe,
oui.
Vous allez à côté, vous allez jouer contre le Togo,
mais t'as pas entendu
vous allez
ce qu'il
jouer
dit.
Contre le Niger.
Il a eu entre deux personnes avant de faire l'équipe. L'équipe n'existait pas avant.
Parce que si le champion existait, oui. Je pense qu'il n'allait pas perdre ce temps pour faire cette sélection.
Oui.
Il suffisait de suivre le championnat et de sélectionner les joueurs. Mais il était obligé de prendre, de faire une sélection. 150 joueurs, c'est quand même...
C'est 12. Oui. Salim, ça se passe comme ça en Tunisie?
Non.
Non, parce qu'il y a les compétitions de juniors coach en Tunisie et ils voyagent souvent partout sur le continent ou même des fois ils vont en Europe ou ils vont même en Asie, je parle en Asie dans les pays arabes, dans le Golfe pour jouer ce genre de compétition-là, mais au niveau des clubs. Donc c'est pour ça que bon, ils sont plus habitués. Après, le Bénin a perdu 2-1. Si on veut parler du match, c'est jouable. Le match retour, ils peuvent à Cotonou, ils peuvent gagner. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Ils peuvent gagner. Ils ont marqué le but à l'extérieur, en Gambie. Il n'y a rien à dire. Après, ce qui est dommage, c'est les conditions. Parce que quand tu ne joues pas, comme disait le coach des U20, quand on ne joue pas, quand on n'est jamais sorti du pays, on se retrouve dans ce genre de contexte-là. C'est difficile à appréhender. Hein. Vous savez, quand... vous êtes sorti, que vous devez aller jouer, que c'est la première fois, c'est compliqué, c'est dommage. Après, les grands clubs dans la région, parce que le Ghana, c'est à côté du Bénin, c'est pas très loin.
Ouais.
Les grands clubs, c'est juste du travail, hein, c'est pas si, hein, il n'y a pas de...
Mais ils ont joué la Gambie, hein, pas le Ghana,
contre
la Gambie.
Je sais qu'ils ont joué en Gambie. Je prenais l'exemple de Doyen Willy qui disait que les clubs, par exemple, Ashanti Kotoko, Hearts of Oak, Ashanti Gold, ça... c'est pour ça que je disais le Ghana, qui est un pays qui est proche du Bénin, pardon, qui est à côté du Bénin. C'est pas sorcier, c'est juste du travail et de l'organisation. Le fait d'avoir un championnat, même si le Ghana, c'est plus le championnat qu'on a connu dans les années 2000 avec le grand Hearts of Oak, etc. Mais il y a des compétitions au niveau des juniors, et c'est pour ça que ce genre d'équipe, dans ces catégories-là, je veux dire, ils sont habitués parce qu'il y a la compétition. C'est ça, en fait, que je dis. Donc, ça, un pays qui est proche du Bénin, c'est du travail, c'est pas chier quoi. Non. C'est juste du sérieux et du travail.
Mais moi, c'est pourquoi je suis tout à fait étonné qu'on ait une équipe qui prépare les éliminatoires ne puisse pas aller, ne serait-ce même bus. Même oui. S'il faut rencontrer des juniors d'un pays Togo, à côté, etc. Mais qu'on nous sorte, vraiment, les enfants n'ont jamais voyagé. Donc,
mais ils n'ont jamais voyagé, pas que ça, ils n'ont jamais joué. Parce que 150 individus fassent une sélection de... Mais c'est sérieux.
C'est pas sérieux. C'est faisable. Hakim.
Oui, non, je rejoins le doyen Willy, effectivement, quand ils disent que, voilà, c'est enfin, un minimum de structuration. Ça, ici, le souligne bien. Et c'est vrai qu'on a souvent cette là, coach Lamine, avec les clubs. Les clubs qui plus sont les mieux organisés. Quand je regarde leur sélection, effectivement, au niveau national, il y a un petit peu de ça aussi. Donc on a cet aspect ressemblant qui montre que le football est structuré, est carré et va de l'avant. Après, bien sûr, c'est peut-être pas le cas pour tous les pays du côté du continent, mais dans certains pays, on a aussi un manque de moyens, Lamine. Et c'est vrai qu'on ressent beaucoup. Où il y a quelques États qui n'ont pas forcément la faveur et le soutien qu'il faut des autorités sportives.
La Liga espagnole sur Africa numéro 1.
Adama, qu'est-ce que Adama? Comment est-ce que
Buenas noches, Colamine. Buenas noches, Hakim. Buenas noches, Ailen. Buenas noches a todos.
Muchas gracias.
Bienvenido a la mejor liga del mundo, sin olvidar el joyeux Willy.
Muchas gracias, hermano.
Bonsoir a tous, a toutes et à tous.
Salut, Adama.
Voilà.
Ahora vamos a hablar de Real de Madrid, de la préparation de Real de Madrid. ¿Qué puedes decirse en esta preparación?
Pues vamos a seguir con el francés, ¿no? Mucho mejor.
Sí, vamos a continuar en francés.
Alors, Adama, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Espagne avec la préparation du Real de Madrid? Bon, on sait que le championnat est fini, les gens sont... le Barcelone a été battu.
Emmanuel Boateng.
Emmanuel Boateng. Bon, superbe. Alors là, à la limite, bon, on s'en fout pas, mais c'est une bonne performance pour Boateng.
Ouais.
Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Zinedine Zidane. Et comment ça se passe, vous qui avez été voir un peu son entraînement pour la préparation de cette Ligue des Champions, cette finale de la Ligue des Champions face à Liverpool?
Oui, je peux vous dire, coach Lamine, le mercredi, je me suis rendu à Madrid. Donc, pendant que le Madrid était allé jouer à Vie, où ils ont perdu le match en championnat. Donc, le jeudi, voilà, j'ai assisté à l'entraînement. Du côté de Madrid, je vous avoue que il y a la peur. Il y a la peur. Il y a une angoisse qui s'est vit du côté de l'Espagne par rapport à cette finale. C'est vrai, tout le monde voit le Real favorite. Mmh. Même ceux-là même qui jouent au sein de ce club de la Casablanca, ils savent qu'ils sont favoris. Mais est-ce que il n'y a pas une peur qui s'est installée à Kepa, une angoisse? Tous les Espagnols que vous rencontrez du côté de Madrid dans les rues voulaient poser la question à savoir qu'est-ce que vous pensez de cette finale le 26 mai prochain? Eh bien, personne sur 20 personnes, il y a une seule personne qui m'a dit « Ouais, bam, la ganar !» Mais le reste, je vous assure que les gens sont... Quand l'Espagnol, il fait bouger sa main comme ça, il dit « Ah, comme ci, comme ça, on va voir. » Et du côté de la Ciudad Deportivo du Real, où le Real s'entraîne, les gens n'ont pas optimistes à 100% comme on a l'habitude de voir cette ferveur dire qu'on va pouvoir gagner. Je suis allé à Bernabéu, je suis allé dans le magasin du Real, mais toujours je suis reparti avec cette insuffisance de formation et de motivation au sein des supporters de ce grand club qui va disputer sa troisième finale d'affilée.
Mais voilà. est-ce qu'il y a, c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés? Est-ce que Ronaldo est encore là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi les gens ont peur? Ils ont peur de l'attaque de Mohamed Salah qui vient, d'ailleurs on va un peu tout à l'heure, concernant un peu l'Angleterre. Mais C'est dû à quoi? C'est dû à quoi que le Real est en train de d'avoir peur comme ça?
Non, c'est pas parce qu'il y a des blessés. Non, Cristiano Ronaldo sera à 100% finale du 26. Ça, c'est une certitude. Et donc, il y a un travail qui est en train d'être fait autour de ce garçon. Mmh. Sergio Ramos n'est pas au top de son niveau. Mais là où les Espagnols, les porteurs du Real ont un peu peur, Coach Lamine, Doyen Willy, Hakim Diallo, et je ne sais pas si Christian est là. Est-ce que vous avez vu un peu le football de Liverpool, la vitesse de cette équipe? Et est-ce que vous avez aussi suivi ce Real de la fin de cette saison? Quand vous voyez une équipe qui a beaucoup de vitesse, mm-hmm. qui arrive à pressionner au moins 70 minutes sur 90 minutes de jeu, c'est un Real qui joue que sur de l'expérience. Et donc, c'est deux styles différents. Et donc, dans les deux styles, est-ce que l'expérience va permettre au Real de remporter cette finale ou l'expérience seulement va permettre à cette équipe d'aller jusqu'au bout? Ou le corps, ou la technicité et la vitesse de cette équipe de Liverpool qui est aussi fraîche, plus fraîche que le Real de Madrid, est-ce que je ne sais pas, vous qui avez vu ces deux équipes durant toute cette saison, je pense qu'on peut faire une analyse. Aujourd'hui, du côté de l'Espagne, on n'est pas tous sereins.
C'est ce que disent les journaux? C'est ce que disent les journaux, Adama?
Oui, les journaux disent. Au début, ils ont commencé à dire non. Et au vu de la prestation de Liverpool contre l'Allemagne, ils ont dit oui. Si cette équipe de Liverpool doit disputer la finale comme ça avec le Real, donc le Real part favori. Mais attention, est-ce que Liverpool n'est pas la Roma à Rome? Parce que cette équipe était allée comme le Barça, ils étaient sûrs de se qualifier.
Non,
ça n'a pas été un bon match.
Je t'explique le match. Adama, excuse-moi. J'explique le match de joué par Liverpool à la Roma. Si jamais ils n'avaient pas fait ça, ils ne seront pas en finale. Je t'explique. C'est-à-dire que Klopp est parti jouer l'attaque à Rome. C'est pour cette raison qu'ils sont restés et dans le match et ils sont en finale. Si jamais ils voulaient.
Défendre.
Comme le PSG avait fait, ils prenaient l'eau de toutes parts. Ouais. Donc, cette façon d'être sûr de soi, pas sûr de ce qu'ils ont fait au match. Non, ils sont sûrs d'eux parce qu'ils sont partis attaquer l'extérieur.
Est-ce que le Real, est-ce que Zinedine Zidane a mis au repos certains joueurs pour cette finale comme on a vu comme la plupart du temps?
Oui.
On se dit voilà, on ne met pas tout le monde, mais on met certains joueurs au repos pour pouvoir être à la finale dans de bonnes conditions.
Coach Lamine, aujourd'hui quand on voit la défaite du Real de Madrid à Séville le mercredi dernier, on s'est dit que oui, Zinedine Zidane a mis à repos, c'est sûr. Mais est-ce que vous croyez, Coach Lamine, est-ce que ces joueurs, on doit les mettre à repos? C'est des footballeurs qui ont du métier. Et donc, quand on parle de mettre certains joueurs à repos, moi, je vous dirais non, parce qu'ils ont des petits bobos de santé.
Oui.
Donc, c'est pour les permettre de récupérer voilà, et de revenir. L'incertitude, on nous dit pas tout. J'étais parti à Madrid pour pouvoir revenir avec
informations.
Des informations comme il se devait. Mais je vous assure que j'ai rencontré il y a un monsieur, un loco du Real de Madrid qui est sur une radio concurrente qui je l'ai vu. Quand je l'écoute souvent, il est vraiment Madrid. Mais lui-même m'a dit il y a un peu de doute. Mais le doute, il est où? Voilà. Il y a un mystère qui s'est caché quelque part. Et Zidane dit, oui, mes joueurs seront à 150% au top au coup de coup droit des assises l'année prochaine. Voilà, Kiev.
Hakim.
Voilà. C'est vrai que cette période, elle est assez... Elle est compliquée. Pourquoi? Parce qu'on fait gestion. J'ai pu l'entendre sur le plateau. Je rejoins pas mal d'opinions. Et c'est vrai que je rejoins l'analyse aussi d'Adama Sourabé qui dit que et la tienne, là, coach Lamine, quand vous dites effectivement qu'on a cette équipe du Real qui prend pas de risque en fait face au FC Séville, qui va effectivement se prendre une raclée, mais bon, une quand même en championnat, même si effectivement le championnat était joué d'avance pour le FC Barcelone. Mais je pense qu'il faut peut-être garder ce rythme pour pas tomber dans les travers de... On quitte un petit peu le championnat, on laisse un petit peu le championnat, on met des gars au repos. Non, je pense qu'il faut être compétiteur. Et quand on est compétiteur, on l'est du début à la fin d'un championnat, y compris avec si on dispute une finale de Ligue des Champions. Et là, effectivement, ça risque de jouer des tours. Ça risque de jouer des tours en laissant des joueurs au repos à cette finale du championnat Real Madrid.
Hakim, je dis Salim, pardon.
Oui, coach, moi j'ai envie de dire que la vérité aujourd'hui n'est pas forcément celle du 26 mai. Pour l'instant, on n'a pas trop encore la forme actuelle des joueurs du Real ou que ce soit de Liverpool, parce que vous savez, Mohamed Salah, à Rome, au Stadio Olimpico, là-bas, il avait fait un match moyen et je sais qu'il ne pourra plus se permettre de faire un match moyen en finale contre le Real Madrid, parce que là, Sadio Mané a...
On va parler de l'Angleterre après. Mais restons un peu sur le Real, parce que il y a des choses tellement inquiétantes qui nous sortent de l'Espagne. Donc, par rapport à cette finale là, c'est pour ça qu'on a posé des questions à comment on appelle ça, à Amas Sourabier, pour que lui qui vit actuellement la session d'avant finale de nous demander les tenants et les aboutissants de tout, qu'on ne soit pas surpris. Oui.
Concernant le Real, je disais par rapport à son adversaire, mais après le Real aujourd'hui, ils sont dans la gestion, ils sont obligés. Il y a que ça à faire. Après, ils seront prêts le jour J. En plus, Cristiano Ronaldo a une petite douleur par rapport au qu'il a eu lors du dernier Clasico à la cheville. Il a préféré ne pas prendre de risques. Donc tout le monde est méfiant. Zinedine Zidane, c'est vrai que il doit avoir tous ses joueurs à 100% pour le 26 mai. Et moi, je pense sincèrement que lui-même ne sait pas encore quelle composition d'équipe il va faire pour la finale aujourd'hui. Mais le plus important, c'est d'avoir tous ses joueurs à 100%. Ça, c'est pas encore gagné. Parce que Cristiano Ronaldo aujourd'hui n'est pas à 100%. Et ça, c'est vrai.
Oui, mais Adama et Salim, et le Real ne peut pas être 100% simplement parce que Zidane n'a pas recruté en temps. C'est toujours les mêmes qui jouent, ils sont tellement fatigués, c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas gagné le championnat non plus. Donc pourquoi ils sont en finale? Simplement c'est pour faire plaisir à Zinedine Zidane, qu'ils ont tout fait pour être en finale. On le voit, à chaque fois qu'ils perdaient les matchs, ils remettent à chaque fois. Donc ils sont arrivés là par courage. Est-ce que ce courage-là, ils l'auront le 26 mai? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils auront la santé le 26 mai? Ça non plus, je ne sais pas.
Doyen Willy, honnêtement, du côté de l'Espagne, si l'équipe de Liverpool qu'on a vue durant toute cette saison, avec une agressivité aussi intense sur ses matchs, si l'équipe de Liverpool retrouve son rythme lors de la finale, je pense que le Real est craqué. Voilà. Mais si Liverpool va jouer avec la peur, ben là, le Real, avec l'expérience et le courage et le corps pour l'air traîneur Zinedine Zidane, sera champion 2018. Mais attention, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. On parle de réforme du côté de l'Espagne, mais du côté de l'Angleterre aussi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs dont on parle de leur réforme à la fin de la saison comme ça?
Du côté de l'Angleterre.
Non, je parle de l'Espagne.
Oui, de l'Espagne, oui.
Quel joueur du côté du Real?
Messi n'a pas fait le déplacement à Valencia hier. J'ai dit hier, oui.
Non, on parle du Real, Adama, du Real.
Oui, oui, non, je sais. Il y a mes formes parce que aujourd'hui, du côté du Real, on sent que cette équipe est plus fatiguée que pas mal d'équipes. La méforme, il n'y a pas eu le renouvellement de l'effectif de cette équipe. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, imaginez-vous qu'il va faire 3 semaines sans disputer une rencontre. Je ne sais pas, à la 4e semaine, s'il va être au top pour disputer une finale. C'est Reina de la FIFA des rétractions. Je pense que cette gestion de Zinedine Zidane, c'était vraiment une vraie casse-tête pour le coach Zinedine Zidane aujourd'hui. Il a encore un dernier match de championnat à Bernabéu. Et donc, on a vu le risque avec Sergio Ramos, qui est la colonne vertébrale de cette équipe, à Séville. Mais il était à ses limites à un moment donné. Il ne pouvait pas donner plus. Voilà. quoi qu'on dise, il y a le doute qui plane du côté de l'Espagne, pas du côté de Barcelone, parce que je suis allé voir, je suis allé toucher du doigt, en réalité, du côté de Madrid.
Eux, ils ont fini.
Donc voilà. Il y a un doute. Voilà, on ne parle pas favori. Voilà.
La Liga espagnole sur Africa Number 1.
Avec le doyen Willy Del Cono, avec Pacte Changchango, parce qu'il n'est pas encore là, hein, mais surtout avec Hakim Jelouana. Hakim, on va rappeler les résultats de la Liga.
Exactement, on va rappeler ces résultats après avoir analysé toute la 37e journée avec Adama Sourabi et toute l'équipe. Real Sociedad s'est imposé face à Leganés 3-2. Getafe s'est incliné face à l'Atlético Madrid 1-0. Match nul entre le Betis Séville et le FC Séville, son voisin, de partout. Gironne s'est incliné à domicile face à Valence 0. Deportivo Alavés s'impose à domicile 3-1 contre l'Athletic Club. La Corogne tombe face à Villarreal. Eibar s'impose face à Las Palmas 1-0. Belle victoire pour le Real Madrid face au Celta Vigo 6-0. Espagnol Barcelone face à Malaga 4-0 l'Espagne Barcelone. Levante s'impose grâce notamment à un jeune africain Boateng, donc 5-4 face au FC Barcelone. Très très belle victoire pour Levante. Et le FC Barcelone eh bien, qui tout simplement ne terminera pas invaincu de cette Liga.
Voilà donc pour les résultats du championnat espagnol, la Liga. Nous allons passer du côté de la Ligue 1.
Le championnat France de Ligue 1 sur Africa numéro 1.
Cette fois-ci, on va donner les résultats avant d'analyser cette Ligue 1.
Oui, pour l'ensemble des résultats, coach Lamine, 37e journée, on le rappelle, en avant Guingamp contre Marseille, 3 partout, c'était un beau match. On aura un résumé justement du jeune stagiaire qui nous a rejoint pour cette émission, Pierre-André Cassès, qui a un résumé de ce match entre l'avant Guingamp et l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain s'est incliné face au Stade Rennais 2-0. Amiens s'impose domicile 2-0 contre Metz. Le SCO d'Angers s'incline 2-0 face à Nantes. Girondins de Bordeaux, belle victoire face à Toulouse 4-2. Le LOSC qui se sauve la mine 2-1 pour le LOSC face à Dijon. Monaco qui s'impose 1-0 face à l'AS Saint-Etienne. L'OGC Nice, belle victoire 4-1 contre Caen. C'est à domicile du côté de Nice. 3-2 pour Strasbourg face à l'Olympique Lyonnais. Belle victoire, belle surprise pour les Strasbourgeois. Montpellier-Hérault 3-1 partout.
Alors, on va parler d'abord, avant qu'on donne à Pierre-André la parole, on va peut-être parler un peu, des équipes qui se sont maintenues.
Ouais.
Strasbourg, avec Lille qui sort de très loin et qui arrive à se maintenir. C'est une bonne nouvelle pour les Lillois. Ensuite, Strasbourg, où jouent deux de nos Africains, bien sûr. Je parle du capitaine de l'équipe et du Burkinabé, bien sûr, que notre ami Adama Sourabi connaît bien.
Le général
Baki connaît,
ouais.
N'est-ce pas? Voilà, donc deux équipes, c'est une bonne performance pour ces deux équipes.
Oui, surtout pour Lille qu'on croyait condamné.
Oui, tout à fait.
Et je suis content que Lille soit resté en Ligue 1, simplement parce qu'ils ont ramené des bons jeunes, mais par manque d'expérience, ils ont eu des problèmes jusqu'à la fin.
Mais puis surtout, il faut souligner un peu leur cours. Oui, c'était Salim ou Adama?
C'était moi aussi. Ouais. Moi, je salue aussi l'arrivée de Petit Gimbourg qui n'avait rien confi. Qui a quand même fait sa place au sein de cette équipe des Lille. Et puis on l'a vu, ces derniers matchs, il a été titulaire. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le maintien des Lille.
Ouais. Alors, ça, c'est tout ce qui concerne le bas.
Ouais.
Maintenant, on va parler de ce qui concerne le haut. Après avoir enlevé le bas, on va enlever le haut.
Quel haut? Mais il y a deux. Il y a le PSG qui est intouchable.
Mais non, on ne parle plus du PSG. Le PSG, je pense que même la défaite est surtout une défaite, à la limite.
Ouais, comme la défaite.
Une défaite le Barça. Honorable.
Ouais, c'est comme le Barça a fait la même chose. Ouais,
exactement. Mais parlons plutôt du podium. Qui pensez-vous? On a posé cette question la semaine dernière, donc Amara Simba qui est avec nous.
Ouais.
Qui sera deuxième, troisième
et peut-être quatrième, la place du Congo. Parce que on a vu que l'île est partie pour être deuxième, mais finalement, je crois que peut-être qu'ils s'en montreront les doigts pour n'avoir pas pu garder un peu le score qu'il est maintenu en deuxième position.
Oui, parce qu'ils étaient moins sportifs, parce qu'il fallait garder le résultat, parce que c'était très important. S'ils ont perdu ce match, c'est vraiment de leur faute, parce qu'ils savent que ça servait à quelque chose, le jeu-là. Donc, sportivement, ils devaient maintenir le résultat et gagner là-bas pour être deuxième. Là, ils seront troisième, ça c'est sûr. Mais c'est dommage pour moi et Marseille, parce que le tableau, ils étaient sur plusieurs tableaux, parce que c'était les mêmes qui jouent tout le temps. Donc, pour Marseille, c'est difficile d'échouer au pied du podium. Mais Lille... Et Lyon 3e, ça ne me gêne pas, parce qu'ils devaient assurer leur deuxième place.
Mais justement, vous avez parlé de Marseille. Salim Adama, un commentaire concernant Lyon-Monaco.
Bonsoir Salim, donc je vais commencer avant lui. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? On parle de la contre-performance de Lyon, mais non. Il faut parler de la performance de l'équipe de Strasbourg, qui avait le dos au mur.
Et qui n'a pas voulu lâcher.
Voilà, qui n'a pas voulu lâcher. Et donc, aujourd'hui, les Lyonnais, ils ont fait pareil que le Paris Saint-Germain, ils ont fait pareil que le Football Club de Barcelone. Et pire, parce que tu joues une deuxième place, tu vas affronter une équipe qui est en difficulté. Et cette équipe, elle a travaillé pour cette victoire. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas voir que l'équipe lyonnaise a jeté l'éponge en perdant ce match. Non, plus ou moins, il faut féliciter l'équipe de Strasbourg. Voilà.
Salim ?
Oui. Ah, déjà, pour Strasbourg, il y a une information, c'est que le gardien Oukidja de Strasbourg, maintenant, donc, a choisi l'équipe d'Algérie. Donc, il évoluera futur néo-international algérien. Déjà, pour commencer.
Bonne nouvelle.
Voilà, mais ils sont qualifiés à rien du tout, donc...
Ouais, mais on l'a mis temps. Hein. On se reforme, on fait un effectif.
Il y a la CAN 2019 qui arrive, donc voilà.
Exactement.
Donc Strasbourg, c'est bien. Belle victoire, 3-2, 2 buts dans les dernières minutes. Strasbourg, c'est un grand. Ça fait plaisir de les voir rester en Ligue 1. J'ai aussi envie de féliciter Toko Ekambi pour son prix, Julien Fouet, puisque c'est le meilleur joueur africain en Ligue 1.
Donc, on l'avait prévu dans les brèves, mais bon, c'est bien.
Ouais.
Mais bravo à lui. Attaque en danger, donc voilà. Concernant du tableau, je pense que Marseille, là, c'est...
Marseille, on va en parler.
C'est cuit pour eux, parce que je pense que là, ça va être figé. Monaco 2e, Lyon 3e et Marseille 4e. Marseille a laissé passer sa chance. Marseille a mal géré son avance de but.
On va en parler justement à cette occasion. Comme vous le dites, alors vous, Salim et le doyen Uli, vous dites que tout est grillé, c'est parti. C'est terminé. Bien, on va analyser ça avec Pierre. C'est à vous, Pierre.
Oui, bonsoir. Mauvaise opération pour l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'en avant de Guingamp d'Antoine Cambrai. Le club fossé menait 2-0 au bout de 14 minutes de jeu, grâce à l'ouverture du score Valère Germain dès la deuxième minute de jeu, suivi d'un but de Florian Thauvin à la 14e minute. Mais Clément Grenier a réduit l'équipe juste avant la mi-temps et a permis à son équipe de revenir au score à la 52e minute sur un pénalty. Jimmy Briand, auteur de 11 réalisations cette saison, a donné l'avantage aux Bretons à la 70e minute de jeu, avantage de courte durée puisque Florian Thauvin a égalisé à la 21e minute. Score final, 3 partout entre les deux équipes, les Olympiens conservent leur 4e place à une journée de la fin du championnat, et dans cette course qualificative pour le championnat européen. A noter que Rennes s'est emparé de la 5e place synonyme de qualification pour l'Europa League après s'être imposé 2-0 face au Paris Saint-Germain.
Bon, alors, maintenant que vous avez analysé ce match, qu'est-ce que vous en tirez en conclusion ?
C'est vrai que c'est une mauvaise opération parce que Marseille le coup deux fois. La semaine dernière en ayant accroché le nul à Angers et cette semaine en accrochant également le nul en avant de Guingamp. Ce sont malheureusement des points perdus. C'est pourtant l'occasion pour eux de clôturer cette bonne saison parce que mine de rien, ils débutent difficilement. Il a été vivement critiqué et je trouve qu'en cette fin de saison, ils remontent bien et malheureusement, les matchs ne sont pas le reflet de leur niveau actuel. Ils ont peut-être à la tête à leur finale face à l'Atlético de Madrid qui prépare, je pense, très bien, d'autant plus que personne ne les voit.
Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'au départ, le Marseille pouvait battre le l'Anavant de Guingamp.
Bah, compte tenu de la physionomie du match, au-delà du fait qu'on sait que l'Anavant de Guingamp est une équipe assez costaud chez eux, hein. On le voit notamment parce que le Paris Saint-Germain s'était également incliné. Mais l'Olympique de Marseille était sur le dynamique et même compte tenu du système de jeu, je pense que beaucoup les voyaient favoris. Et c'était peut-être aussi l'occasion pour eux de se mettre en course juste avant la finale.
Ouais.
Oui, le problème c'est que, comme disait notre jeune stagiaire, vraiment brillant, c'est-à-dire que Marseille avait son destin à mettre. Donc c'est à eux de faire un score pour être sûr. C'est pas n'importe qui est sur un podium. Pour être sur le podium, il mérite le podium. Donc un match, et quand on met 2-0, on se retrouve à 3-3, c'est qu'on ne mérite pas le podium. Sportivement, je parle.
Donc si je vous comprends bien, si je vous suis, Lyon ne devrait pas mériter le podium, puisqu'ils
ont mené... J'ai dit
Lyon ne mérite pas le podium
non.
aussi. Et qui devrait être sur le podium?
Mais c'est Marseille, parce que par rapport au parcours de Marseille, en principe, Marseille mérite la troisième place. Lyon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme Monaco. Monaco, je ne veux pas sur le podium, simplement parce qu'ils ne font pas de choix sportif. Je t'avais dit l'autre fois, tu m'as dit que je m'énerve encore. C'est-à-dire que...
Ils jouent des petits bouts de match, ils jouent des petits bouts de match doyen, je suis d'accord avec toi.
Oui, vas-y. Il faut faire un choix sportif. Et après, on sort des nouveaux joueurs dans le chapeau des centres de formation, on en revend encore, on reste comme ça. Ça a marché deux ou trois fois. Mais je suis content que ça ne marche pas cette année pour
eux. Oui, d'accord, mais en attendant, ils sont deuxièmes. Donc maintenant, de cette équipe de Marseille, vous trouvez que Marseille mérite d'être troisième place
sportivement, parce qu'on ne comptait pas sur eux.
Oui, par rapport à leur saison. Après, je te laisse la main, Adama.
Oui.
Par rapport à leur saison, on ne les attendait pas. On a effectivement Rudy Garcia qui est arrivé en cours route. Il réussit à se qualifier en finale de l'Europa League. Très très bon chemin donc sur la deuxième partie de saison en championnat, en Ligue 1. La preuve, ils sont dans les cinq premiers. Même si effectivement la place pour la Ligue des Champions risque d'être compliquée et compromise, puisqu'il reste une journée de championnat et qu'ils ont encore leur cartouche énergie à garder cette finale de Ligue Europa qu'ils aimeraient remporter.
Oui, alors Pierre-André, Salim vient vers vous, hein, ne vous inquiétez pas. Pour vous, Marc a-t-il le coach pour pouvoir garder ses... Vous n'avez pas d'autres raisons qui peuvent vous dire ou vous faire croire que Marseille n'a pas encore perdu le championnat?
Moi, ça reste compliqué, mais c'est tout à fait faisable, surtout dans le foot. Hein. C'est-à-dire que s'ils s'imposent et que l'Olympique Lyonnais et Monaco ratent le coche comme eux l'ont fait ce week-end...
Monaco s'en va jouer contre Amiens, il me semble.
Oui.
Lyon reçoit Saint-Étienne. Il me semble. Nice, plutôt.
Et ben pour Lyon, ça risque aussi d'être compliqué parce que le fait de recevoir Nice aurait aussi une bonne équipe. Malheureusement, ils passent juste à Rennes, mais c'est-à-dire qu'ils veulent quand même, je pense qu'ils vont vouloir quand même les accrocher. Et c'est compliqué. Et je pense que c'est pas totalement fini pour l'Olympique de Marseille.
Pourtant, dans votre chronique,
dans votre chronique, c'était fini pour Marseille.
Non, je dis pas que c'est fini. Je dis que justement, c'est une mauvaise option dans la mesure où, en fait, comme Willy l'a dit, ils avaient leur destin en main. S'ils s'imposent non seulement contre Angers et aussi contre Guingamp, c'était quasiment pour eux et malheureusement, ils ratent le coche. C'est pas totalement fini, hein, rien dit, mais
Monaco ira à 3, Lyon recevra Nice et Marseille accueillera Amiens.
Bon. Salim.
Oui, alors moi je pense que Marseille ne mérite pas de finir dans les trois premiers, tout simplement parce qu'ils n'ont battu aucun gros. Donc je rappelle, défaite 6-1 à Monaco, match nul au Vélodrome contre Monaco, défaite aller-retour contre Lyon, et match nul au Vélodrome contre Paris, et défaite là-bas 3-0. Donc au bout d'un moment, quand tu n'arrives pas à décrocher une victoire sur ton terrain, on parle pas de Paris, contre Monaco ou Lyon, pour moi tu mérites pas de finir dans les trois premiers. Donc voilà, pour moi ne mérite pas de finir dans les...
C'est à vous, hein, c'est à vous de défendre votre chronique.
Je suis d'accord et pas d'accord, parce que on voit quand même qu'au-delà du championnat, en championnat européen, ils ont quand même montré de très belles choses qui prouvent qu'ils méritent quand même une éventuelle qualification. Et beaucoup ont critiqué en disant que c'était des petits clubs qui jouaient, que c'était pas des clubs du haut prestige, mais pourtant, ils sortent même Salzbourg, hein, qui a dit le Borussia Dortmund et a accroché l'Adiodrome trop tout le temps. Je trouve ça honorable hein, quand même. Et je pense
ils méritent. Ils méritent l'Europa League, pas en Ligue des Champions. C'est ça que je dis en fait.
Après, rien, comme vous dites, regardez le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Évidemment, en Ligue 1, ils écrasent tout le monde. Et on l'a bien vu qu'en Ligue des Champions, face aux gros, je parle par exemple du Bayern et du Real de Madrid, ils se sont lourdement inclinés, même dans le jeu. Et pourtant, on ne les considère pas comme étant déméritants pour aller aux phases finales de Ligue des Champions.
Oui, alors merci, restez avec nous. Dans votre rubrique, vous parlez aussi de de ce qui a, a trait à cette équipe de Marseille. Vous avez le doyen de la fatigue de nombre de matchs, il me semble. Oui. Mais pour vous, par rapport à cette rubrique-là, cette chronique que vous venez de nous faire, il n'y a pas eu d'autre raison par rapport à la défaite de Marseille, quand je dis défaite, au match nul de Marseille face à Guingamp.
Bah, je pense qu'il y a aussi le carton rouge de Stéphane Dandin qui vient un peu perturber aussi le match. Hein, c'est quand même et c'est même généralement une équipe, lorsqu'elle prend un carton rouge, effectivement, on se retrouve avec un joueur en moins et les choses se compliquent. Mm-hmm. Notamment en plus Steve Mandanda qui est comme un élément clé hein, malgré les complications qu'il a connues. Donc, ça reste un élément clé de l'effectif de l'Olympique de Marseille et le pied numéro 1.
Ouais. Mmh. Ouais, parce que la place de Marseille à tous les niveaux est due à beaucoup au portier Mandanda. Même les gens ne veulent pas être, mais Mandanda était important et Marseille, surtout dans les moments difficiles.
Hakim.
Ah, moi, je l'amène sur cette fin effectivement de saison pour Marseille suite à la chronique qu'a écrit Pierre-André Cassès. Donc, je trouve très bien écrite et je pense que Marseille, moi, voilà, ils méritent leur place au vu effectivement de leur saison globalement. Après,
ils méritent leur place, c'est-à-dire ils méritent leur
place. Leur place donc, troisième, ils mériteraient effectivement d'accrocher
c'est
une
place. C'est bien ce que vous voulez.
D'accrocher une place sur le podium au vu de leur saison, au vu de leur voilà, de leur parcours. Après, bien sûr, on rejoint l'analyse de Salim. C'est vrai que face au gros, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais quand on remarque leur parcours d'une manière globale, d'une manière générale, eh bien c'est quand même bien méritant d'être bien tout simplement à cette position-là au niveau du championnat de Ligue 1 et aussi d'être en finale de Ligue 1. Et ça, moi, je pense que c'est pas mal par rapport aussi à d'autres effectifs qu'on a pu voir chez Monaco, chez le Paris Saint-Germain.
Il faut souligner que Marseille est en Europe le club qui a le plus joué de matchs aussi. Donc ça, et sur les joueurs aussi, vers la fin.
Physique, exactement.
Ouais. Achou, on vous écoute.
Oui, bonjour, vous allez bien, quoi.
Ça va bien. Bonjour. Nous, on va bien.
Ouais, oui. Ah, c'est pour dire que ouais, Marseille, ils ont fait un bon parcours. Franchement, c'était génial. Moi, je suis pas Marseillais, parisien. Après, bon, c'est vrai que Marseille, ils ont eu un début difficile, assez difficile, parce qu'il faut se rappeler qu'ils perdaient ils ont perdu avec tous les gros du championnat de France. Et là, quand même, à la fin de saison, personne ne les voyait là. Donc.
Ouais.
Personne ne les voyait atteindre jusqu'à la finale de la Ligue Europa. Franchement, c'est une grande chose, même pour le football français.
Je suis d'accord.
Tout est possible dans le
monde. Ok, on a bien compris. En tout cas, voilà. Par rapport à cette chronique que vous avez faite sur l'Olympique de Marseille, donc vous avez une conclusion à donner?
Que ça risque d'être compliqué pour Marseille, mais pas impossible.
Pas compliqué, mais pas impossible.
Oui, et dire aussi que même Marseille, à la carte plat, a beaucoup de mérite en Ligue 1 cette année.
Pour une conclusion, Coach Lamine, une belle saison pour Marseille en attendant cette finale de Ligue Europa qui va se jouer mercredi.
Salim, par rapport à la chronique du jeune Pierre-André.
Oui, moi je dirais que Marseille est à sa place, quatrième, pour la Ligue Europa, parce que Marseille n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions.
Donc, oui, voilà, c'est vrai.
C'est mon avis. J'espère qu'ils vont briller en Ligue Europa. Comme c'est, mais il va falloir être encore chanceux par rapport au parcours.
Adama Sourabier, sur chronique Pierre-André.
Oui, moi je dirais que Marseille est une équipe qui réussit à Montréal démarrer sur le plan combatif. Et c'est une équipe qui n'a rien lâché. C'est une équipe sur laquelle personne n'a misé lors de la première partie du championnat. Mais quand même, cette équipe a fait un travail vraiment intense. Et un travail intense pour pouvoir arriver là où elle est. Et encore, rien dit que Marseille ne sera pas qualifié pour la Champions League, puisque le mercredi prochain, contre l'Atlético de Madrid, on ne sait jamais si jamais Marseille venait de remporter la finale de cette Europa Liga. Et donc, d'office, elle sera qualifiée pour la prochaine Champions League. Une finale de coupe. Il est très difficile de pronostiquer. Je pense que Marseille a encore une chance d'être européenne l'année prochaine.
Donnez-nous quelques nouvelles de l'Atlético de Madrid. Est-ce que vous les avez suivis? J'ai vu quelque chose concernant...
Oui, je suis passé, mais là, ils avaient déjà fini l'entraînement. L'Atlético de Madrid, oui, comparativement au Real de Madrid, c'est une équipe qui est en pleine confiance. C'est une équipe qui vient libre pour repartir avec sa coupe. Voilà.
Voilà, donc si vous le dites, hein, je ne vois pas pourquoi vous donnez l'espérance aux leaders et supporters marseillais, non, à qui vous dites qu'ils peuvent gagner, alors que vous-même reconnaissez que du côté de Madrid, l'équipe de l'Atlético vient pour prendre la coupe.
Ce qui est sont deux choses différentes. Donc, le doyen Willy a l'habitude de le dire, le ballon il est rond pour tout le monde, sur le gazon, et donc... Sur un match, deux actions peuvent amener une équipe à remporter une finale.
Ouais.
Voilà. Donc, sinon, les Ticos de Madrid, ils sont vraiment une équipe sereine, une équipe qui vient sans peur du côté de Lyon. Voilà, c'est ce qui s'est dit à Madrid, du côté des supporters de la Ticos de Madrid.
Alors, il y a 6 minutes, on va peut-être pouvoir parler un peu des brèves au lieu d'aller du côté de l'Angleterre. Juste 2 minutes du côté de l'Angleterre pour parler peut-être. pour dire que Mohamed Salah a battu le record, bien sûr.
Ouais, meilleur 32 réalisations.
Époustouflant.
Meilleur joueur. Ouais, choisi par les joueurs.
Ouais, exactement.
Meilleur joueur choisi par les coachs.
Peut-être.
Et meilleur joueur choisi par l'ensemble. Donc, trois fois meilleur joueur.
Mais oui, mais pas comme ici. Hein,
meilleur joueur de l'année en première ligue en Angleterre, meilleur joueur de l'année en Afrique. C'est simple, c'est effectivement la valeur sûre de l'Égypte pour les pharaons, pour le mondial 2018 en Russie, et la valeur sûre pour Liverpool face au Real.
Et un grand ambassadeur du football africain, parce qu'il est arrivé en Europe en 2012, parce que là, ils font exprès de ne pas mettre l'accent là-dessus. Il a joué en première division en Égypte avant de venir.
Ouais,
et je le dis toujours, tous les Africains qui ont joué en première division dans leur pays passent ici.
Et pour leur préparation, hein, justement, on va venir au
Real. Oui, Adam, juste à
droite. Hakim Doyen, coach, on parle aussi beaucoup de Salah au Real de Madrid la saison prochaine.
Ah, bon, d'accord. On parle de Neymar aussi.
Calmez-vous là-bas. Hein.
Non, Neymar, reste à Paris.
On parle de Neymar aussi. Bon, sur l'Angleterre, donc, c'est ce qu'il y avait à retenir. C'est surtout la performance de Mohamed Salah. Qui a réellement gagné tout.
Exactement. 32 buts au compteur.
Et bien mérité aussi.
Ouais.
Allez, Hakim, les brèves avec les pré-listes des sélections nationales.
Pré-listes des sélections nationales, on les a. Avant, peut-être juste pour parler effectivement des brèves. Coach Lamine, le CS Constantine qui devient champion d'Algérie 21 ans après.
Ouais.
Belle performance pour les Algériens. Le club africain côté tunisien remporte la Coupe de Tunisie. Et également le côté du Maroc pour faire effectivement tout le Nord Afrique. Eh bien, c'est le premier titre pour le club de Tanger qui remporte l'Ittihad Tanger qui remporte tout simplement le championnat marocain d'Aboutola. Première division, premier sacre devant plus de 45 000 supporters. Très très belle performance pour le club d'Angers.
On va avoir la Ligue des Champions de l'année prochaine qui est un peu mal. Hein. Ouais. Ensuite.
Ensuite, on va parler des brèves. Donc, continuons sur les brèves avec l'ensemble des sélections. Justement, la pré-liste.
Rapidement,
on a quelques informations. Donc, présélection de l'Égypte, on en a parlé avec Hector Cooper, qui a dévoilé sa présélection donc, de 29 joueurs, parmi lesquels, chez les gardiens, Issa Maladari, Mohamed El Naoui, Sherif Ekrami, Mohamed Awad, chez les défenseurs, Fatih, El Mohamadi, Gaber, on a également Abdel Shafi, Samir, Saad, Ahmed Egazi, Karim Hafiz, Ayman Ashraf, Ali Gaber, Mahmoud El Winch, on a aussi Amrod avec Mouterin, Shikabala, Abdallah El Saïd, Mohamed Deni, Tarek Ahmed, Mahmoud Karaba, on a Mahmoud Tezegue Hassan, Ramdan Sobi, ça vous fait sourire, coach Lamine, Smorsi, on a aussi Amer Warda, Mahmoud Abdelaziz, et chez l'attaquant, bien sûr, le meilleur joueur d'Angleterre et d'Afrique actuel, Mohamed Salah, Liverpool, Marwan Mohsen, Ahmed Koka, accompagné de Ahmed Goma du club de Masri. Voilà pour la sélection
exactement.
Égyptienne.
Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il y a un joueur qui va encore disputer une Coupe du Monde. Il s'agit du gardien de but.
Ouais.
44 ans, qui sera là-bas.
Et c'est Maladari dont on a parlé effectivement lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui avait souhaité participer à ce mondial. Ça va lui faire du. Il est content. Et tout simplement, ça sera un record, hein, puisque à 45 ans, il disputera effectivement sa énième Coupe du Monde avec les Pharaons d'Égypte. Concernant le Nigeria, Lamine, eh bien, le Nigeria a également annoncé une présélection de 30 joueurs retenus pour le Mondial 2018. C'est aujourd'hui avec Kobbie Mikie, Victor Moses.
Est-ce qu'il y a des surprises par rapport à ça?
Des surprises, oui, on peut en parler, effectivement. Celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est le joueur Junior Lokosa du club Kapilars, qui eh bien, tout simplement est un club connu au niveau de... des coupes continentales des clubs sur le continent africain. Junior Lokosa, on le rappelle, c'est un jeune joueur, coach Lamine, il a inscrit 18 réalisations exactement en 21 matchs avec le Kapilars. Voilà pour le Nigeria et du côté de l'Égypte également. C'est tout.
Alors, merci donc pour votre chronique. Hein.
Merci à vous.
Merci et bravo.
Vous revenez quand vous voulez. Salim, merci beaucoup. Adama Sorabie, merci. On se retrouve lundi prochain. Hakim, merci beaucoup.
Merci, coach.
Merci.
Quelques instants. Merci à Hélène. Ce soir, Fatou, tu vas où? Avec l'éducation des filles dans le monde. Ton programme. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.
Tout feu, tout foot. L'émission 100% foot sur Africa numéro 1.